Le journal Frédéric Barrère.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. Premier dimanche après révélation du désastre dans la communauté catholique et après la publication et l'onde de choc du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Les fidèles retrouvaient aujourd'hui leur paroisse pour la messe ou dans leur communauté et les mouvements de jeunes catholiques. Le rapport Sauvé a également été un séisme pour les scouts. Reportage dans un instant. Des milliers de manifestants à Bruxelles lors de la Grande Marche pour le Climat, une manifestation pour rappeler l'urgence de mesures fortes. Dans le cortège, Alba, 16 ans, angoissée par le changement climatique.
Je pense que la plupart, on a déjà plus ou moins perdu espoir. C'est triste, mais en fait, on lit les rapports des scientifiques, ça nous rend juste un peu triste par rapport à tout ce qui se passe.
Dans ce journal également, Mélanie Boulanger, la mère de Canteleu, sortie libre et sans aucune charge de sa garde à vue. Après un coup de filet anti-stupéfiant, le maire de Rouen, en colère, dénonce l'emballement médiatique. Inquiétude et incertitude en République tchèque, le président Zeman est hospitalisé au lendemain des élections législatives. Et puis, la tournée d'adieu d'Angela Merkel en Israël. Vos rendez-vous du 19h avec la page sport. Au menu, la finale ce soir de la Ligue des Nations de football, du rugby avant Stade Français Clermont et on vous racontera l'histoire d'un skieur miraculé, l'agenda de la semaine avec les temps forts de l'actualité de la semaine qui vient avec notamment des cérémonies d'hommage à Samuel Paty, la météo pour demain, des nuages au nord, Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition, à 19h30, les petits bateaux Noël Bréham.
Je m'appelle Alice, j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi les champignons sont-ils empoisonnés.
Heureusement pas tous les petits bateaux après ce journal.
France Inter.
Les premières messes du dimanche après la tempête du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Les fidèles ont retrouvé leur paroisse sous le choc des conclusions du rapport qui dénombre 330 000 victimes mineures dans le cadre de l'Église depuis 1950. Parmi ces victimes, 2/3 ont subi des agressions de la part de membres du clergé catholique, 1/3 victimes de laïcs qui agissaient dans le cadre de l'Église, au catéchisme, dans les cours de musique ou dans les camps de scouts. Les scouts ont aussi repris leur activité ce week-end. C'était le cas à Strasbourg, dans ce groupe de l'association des scouts et guides de France, où on a parlé du rapport Sauvé et de la question des abus auprès des enfants. Rémi Brancato à Strasbourg.
Sur le terrain de sport, près du local des scouts et guides de Saint-Pierre-le-Jeune, les chefs ont fait asseoir les guides, ce sont les filles de 11 à 14 ans, pour parler de consentement.
C'est souvent plus délicat de dire « j'ai pas envie » quand on est jeune, notamment quand la personne qui vous demande quelque chose, elle est plus âgée, qu'elle a une autorité sur vous.
Édouard Bayache est le responsable du groupe, environ 130 mineurs.
On a parlé des prêtres là dans les médias beaucoup, mais ça vaut aussi pour les chefs scouts en fait. Il faut savoir dire non. Il faut savoir en parler.
C'est un peu dur à avouer. T'as peur de la réaction, par exemple, des parents.
Alix, Apolline et ses amis se sentent plutôt en sécurité ici.
On a beaucoup confiance en nos chefs.
On les verrait pas du tout faire ça.
Malo, un de leurs deux jeunes chefs de 18 ans, doit respecter certaines règles.
On reste jamais seul avec les jeunes, on est toujours à plusieurs. Il y a plein de mesures qui sont mises en place.
L'association a aussi mis en place une ligne d'appel d'urgence pour les enfants. Lutter contre les abus sexuels est un objectif de longue date, rappelle Édouard.
Et ce qu'on a essayé de faire depuis plusieurs années, c'est de l'éducation à l'affectivité pour les plus jeunes, à la sexualité. C'est en parlant de ces choses-là, librement, qu'on empêche ce genre d'actes. Il faut faire avancer l'Église, et nous, on est plutôt des réformistes que des conservateurs. Ne pas en parler, c'est une faute.
Une faute que dénonce aussi le rapport Sauvé qui pointe le tabou qui entoure la sexualité dans l'Église.
Rémi Brancato. Une grande manifestation aujourd'hui à Bruxelles. 25 000 personnes au moins, selon la police. 70 000 pour les organisateurs en marché pour le climat. À 3 semaines de la COP26 de Glasgow sur les changements climatiques, la coalition climat, qui chapeaute plus de 80 organisations de la société civile, a réussi son pari dans la rue pour mettre le monde politique sous pression et pour qu'il adopte des mesures fortes en faveur de la protection du climat. Sur place à Bruxelles, Jérémy Audouard.
Passons que le climat, on a pris ça. Dans le cortège, on retrouve beaucoup de jeunes et de familles. Sarah, collier à fleurs autour du cou, est pleine d'enthousiasme. Aujourd'hui, c'est la première fois de sa vie qu'elle manifeste.
Je me suis dit, là toute seule, je vois plus ce que je peux faire. Et voilà, j'ai eu la possibilité de rencontrer un groupe et de pouvoir venir avec eux. Je me suis dit, c'est l'occasion. Et donc, du coup, ma fille qui est plus jeune est venue aussi. Je me suis dit, voilà, je veux lui montrer aussi ce qu'on peut faire, même si ça semble minime.
Le ton est plus grave chez Alba, 16 ans. Elle angoisse littéralement pour les années qui viennent.
Je pense que la plupart, on a déjà plus ou moins perdu espoir. C'est triste, mais en fait, on lit les rapports des scientifiques, ça nous rend juste un peu triste par rapport à tout ce qui se passe.
C'est un mélange de désillusion et d'espoir chez Marcel. Lui milite au sein de l'association des Amis de la Terre.
Il y a 50 ans que je fais des manifestations. Je pensais que cette année-ci, j'allais passer mon tour parce que ça ne servait pas à grand-chose. Je suis quand même venu parce que je me dis que ne pas y être, c'est peut-être encore pire. Mais il y a peut-être un moment où il faudra développer d'autres moyens d'action.
Les manifestants attendent inlassablement des mesures radicales pour sauver le climat. Dans les prochaines semaines, vont se tenir un sommet européen à Bruxelles, mais surtout la COP26 à Glasgow. À Bruxelles, Jérémy Audouard, France Inter.
L'affaire a fait grand bruit. Deux élus de la région de Rouen, en Seine-Maritime, ont été interpellés lors d'un coup de filet anti-stupéfiant. 19 personnes arrêtées, placées en garde à vue, dont la maire socialiste de Canteleu, Mélanie Boulanger, et son adjoint, Asbi Colac. Mélanie Boulanger, qui s'est retrouvée au cœur d'une affaire de trafic de drogue sur sa commune, est sortie libre hier de sa garde à vue. Aucune charge n'a été retenue contre elle. Son adjoint a également été relâché. Nicolas Maillère-Rossignol, maire socialiste de Rouen, est soulagé de voir sa vice-présidente à la métropole mise hors de cause, mais il dénonce les dégâts d'un emballement médiatique autour de Mélanie Boulanger, Nicolas Maillère-Rossignol, avec Bastien Thomas de France Bleu Normandie.
Il parle de trafic, de kilos et de kilos d'héroïne, d'armes de poing. 19 personnes sont mises en garde à vue. On parle de la famille M, on n'a pas de nom, pas d'image, pas de visage, pas de photo, rien. Mais par contre, la seule image qui est mise en une de tous les médias, c'est celle d'une élue locale qui est donc relâchée. Aucune charge n'est retenue contre elle, mais alors elle, par contre, vous avez son nom, son âge, vous avez le nom de son compagnon, vous savez si elle a des enfants, c'est tout juste si vous n'avez pas son adresse. C'est insupportable. On jette sa réputation au chien qui s'arroge le droit de juger sans connaître la moindre information du dossier. Et personne ne se pose la question des conséquences de cette situation, de ce traumatisme pour elle-même, pour sa famille, pour ses enfants. Je voudrais que tout le monde réalise cela.
Nicolas Maillère-Rossignol, le maire socialiste de Rouen, est parmi les personnes encore en garde à vue. Certaines devraient être déférées prochainement lors des perquisitions menées en Seine-Maritime, dans l'Eure et la Seine-Saint-Denis. Le parquet de Bobigny rappelle que 375 000 euros ont été retrouvés en liquide, ainsi que 15 kilos d'héroïne et des armes à feu. Canteleu est considéré comme la ville d'où le réseau était géré. Après la relance, l'investissement. Emmanuel Macron présentera après-demain mardi France 2030, un plan d'investissement pour bâtir la France de 2030 et plusieurs dizaines de milliards d'euros pour créer les champions dans les technologies d'avenir capables de rivaliser avec les géants chinois et américains. Laurent Berger était l'invité à la mi-journée de questions politiques sur France Inter. Le secrétaire général de la CFDT estime qu'en parallèle du plan d'investissement, il faut accompagner les salariés.
Il faudra que ce soit accompagné d'un vrai plan d'évolution des compétences. Ça nécessite qu'on accompagne à hauteur de femmes et d'hommes les salariés. Et puis le dernier point, je vais vous dire, sur ce plan d'investissement, c'est qu'à un moment donné, il faut aider économiquement. Il va falloir conditionner ces aides publiques aux entreprises. Il va falloir qu'ils aient des logiques de traiter correctement leurs sous-traitants, de créer de l'emploi, de créer de l'activité. Je vais vous prendre un exemple. C'est une entreprise qui travaille dans l'automobile qui s'appelle Alvance Aluminium Wheels, qui est située dans l'Indre. Cette entreprise, elle fait des jantes aluminium. Aujourd'hui, elle aurait besoin que les grands constructeurs de l'automobile, PSA, Renault, lui donne une charge de travail, investisse, notamment pour qu'elle se transforme et puis qu'elle puisse s'adapter aux futurs véhicules électriques. Eh bien, ils ne le font pas, en se disant, si cette entreprise, elle meurt, on ira chercher à moindre coût ailleurs les jantes dont on a besoin. Eh bien, il y a 16 milliards d'euros qui sont donnés à la filière automobile aujourd'hui. Eh bien, il faut que les grands constructeurs, ils aient l'obligation, par exemple dans cette entreprise, de passer des commandes pour qu'on permette à cette entreprise et à ses salariés de vivre demain.
Laurent Berger dans Questions politiques avec Thomas Snegaroff. L'actualité à l'étranger avec également les élections législatives en Irak. Participation timide, problèmes techniques dans les bureaux de vote. Ces élections législatives anticipées soulèvent peu d'enthousiasme et peu d'espoir de changement. On s'attend à un record d'abstention. Les résultats définitifs devraient être connus demain. Inquiétude et incertitude en République tchèque. Le président Miloš Zeman a été admis en soins intensifs à l'hôpital militaire de Prague. Une hospitalisation qui intervient alors que le président, âgé de 77 ans, était censé ouvrir des discussions avec les partis politiques au lendemain des élections législatives marquées par la courte défaite du Premier ministre Andrej Babiš. Sur place à Prague, Alexis Rosenzweig.
On savait que le président Miloš Zeman, âgé de 77 ans, était malade et très affaibli, mais son hospitalisation en soins intensifs aussi rapidement après le scrutin législatif est quand même une surprise. Une ambulance l'a transféré de sa résidence ce matin, juste après la visite du Premier ministre Andrej Babiš, le populiste vaincu et arrivé deuxième de ses élections, juste derrière une coalition de partis de droite, bien résolus à faire quitter la scène politique à ce milliardaire, visé par plusieurs affaires, et récemment encore par les Pandora Papers. Sa défaite et l'état de santé plus que fragile de son allié, le chef de l'État, symbolise, selon certains commentateurs, le fait qu'une page se tourne à Prague et même la fin de la période post-communiste dans ce pays d'Europe centrale, d'autant que le Parti communiste tchèque ne comptera plus aucun député pour la première fois depuis la révolution de velours de 1989. Le mieux placé désormais pour former un nouveau gouvernement est Petr Fiala, chef du parti conservateur ODS aux tendances eurosceptiques, qui siège au Parlement européen avec notamment le PIS polonais et l'extrême droite suédoise. Prague, Alexis Rosenzweig, France Inter.
La tournée d'adieu d'Angela Merkel est passée ce dimanche par Israël. La chancelière allemande, après 16 années au pouvoir, a tenu à assurer Israël de son soutien. Cet après-midi, Angela Merkel a visité pour la sixième fois le mémorial de la Shoah à Yad Vashem. Après deux agressions antisémites très médiatisées en Allemagne, elle affirme qu'il faut lutter sans faiblesse contre l'antisémitisme. La sécurité de l'État hébreu restera une priorité de tout gouvernement allemand, a-t-elle expliqué lors de sa dernière visite officielle en Israël. La chancelière allemande et le premier ministre israélien Naftali Bennett ont aussi évoqué le programme nucléaire iranien qui a franchi toutes les lignes rouges selon Israël. Sur place à Jérusalem, Frédéric Mettezo.
C'est la septième visite en Israël d'Angela Merkel qui ne se rendra pas cette fois-ci à Ramallah chez les Palestiniens. Mais sur cette question, la chancelière a fait entendre la position traditionnelle de l'Allemagne qui n'est pas celle du premier ministre israélien.
Personnellement, je pense que l'idée des deux États ne doit pas être mise de côté. On doit trouver une solution pour que les Palestiniens vivent dans un État libre. Mais le point central est un État d'Israël en sécurité, juif et démocratique. Et donc, les menaces de l'Iran doivent être prises au sérieux. Il faut tout faire pour que l'Iran n'obtienne jamais l'arme nucléaire.
Naftali Bennett affirme qu'il ne permettra pas à l'Iran d'y arriver.
Si l'Iran devient un pays nucléaire, ce sera une tâche morale pour le monde libre et une menace pour la paix du monde. Avec les Iraniens, il n'est pas nécessaire d'essayer de se réconcilier. Ils considèrent les appels à la réconciliation comme une faiblesse.
Ultime symbole dans cette visite d'adieu, le drapeau européen entre ceux de l'Allemagne et d'Israël. Sous Benjamin Netanyahou, il était banni. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Tout le monde connaît désormais le concept du coming out, un peu moins la notion de coming in. C'est le temps qui précède l'affirmation publique de son homosexualité et qui est celui de l'acceptation de soi. Demain lundi, c'est la journée internationale du coming out, moment parfois difficile, redouté ou de soulagement lorsqu'une personne affirme son homosexualité à ses proches, à sa famille ou au travail. Et la journaliste Élodie Font, elle, s'est intéressée à l'étape qui précède, celle donc du coming in. Dans un roman graphique, Élodie Font raconte comment elle a accepté le fait d'être lesbienne. Alice Cachaner.
Il aura fallu une vingtaine d'années à Élodie Font pour vraiment accepter qu'elle aime les femmes et dire enfin « je suis lesbienne ».
C'est une émotion toujours assez forte avec ce mot-là, ce mot lesbienne, parce que pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, je le trouvais très moche.
Un mot qui lui semble étranger, car à l'époque, la jeune fille n'arrive pas à s'y identifier.
Je ne me reconnaissais pas dans l'image publique de la lesbienne. J'avais pas les cheveux courts, j'avais pas de tatouage, j'avais beaucoup de mal à trouver un personnage lesbien quelque part qui pourrait correspondre à qui j'étais.
Le livre raconte ses premiers émois amoureux, amoureux avec des garçons, des filles, et surtout les longues années de combat intérieur, le déni, la souffrance et l'envie d'en finir.
C'était comme une alarme en moi, très lancinante. Je pensais au mot suicide toute la journée. Et donc je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait.
Il y a les démons intérieurs, mais aussi le regard de la société.
Autour de moi, j'avais très peur que ce soit pas très bien accepté. Dans mon travail, dans mes études, encore aujourd'hui, en 2021... Se dire à soi qu'on est homo, ça prend du temps, c'est compliqué, parce que on a projeté, depuis qu'on est né, une image de soi, et en fait, on ne correspond pas exactement à cette image-là.
Au fil des pages, les dessins se font plus colorés, les traits plus apaisés, le signe d'une sexualité heureuse et enfin assumée.
Le roman graphique Coming In est publié aux éditions Payot avec les dessins de Carole Morel. h 14 sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Frédéric.
Soir de finale, Fanny.
Oh oui, on va prendre tout de suite la direction de Milan en Italie où se trouve notre envoyé spécial Cédric Guillou pour suivre ce soir la finale de la Ligue des Nations de football entre la France et l'Espagne. Bonsoir Cédric, avant de parler de cette belle affiche, faites-nous saliver, décrivez-nous où vous êtes. Cette finale va jouer dans un stade mythique.
Ah oui, effectivement, ici à San Siro, stade qui peut contenir 74 000 spectateurs. Théoriquement, il n'y en aura que 37 000 ce soir, 37 000 billets mis en vente qui ont tous trouvé preneur, évidemment. Et il y aura 4 000 Français également, et certains que j'ai croisés dans les rues de Milan me disaient qu'ils étaient venus, évidemment, pour encourager les Bleus, mais aussi pour voir San Siro, lieu mythique du football, l'antre d'ordinaire du Milan AC, de l'Inter Milan, qui se partage ce stade où les tribunes sont très proches du terrain, où les gradins sont très inclinés. C'est un stade très ancien, hein, puisque sa construction elle a commencé en 1925. Il a été rénové au début des années 90. Mais vous savez qu'ici, la tendance à Milan, c'est qu'un nouveau stade soit construit pour 2024. Les deux clubs résidents sont d'accord, mais vous vous doutez bien que les supporters, eux, bah, ils ne sont pas d'accord. Hein. On ne brise pas comme ça un stade mythique, historique, et un stade qui pourrait devenir historique aussi pour l'équipe de France, hein, évidemment, 4 victoires contre l'Espagne ce soir.
Et oui, voilà pour les crains, parce que le contenu est pas mal non plus. Les Français champions du monde face aux Espagnols, l'équipe en forme du moment. Une victoire et les Bleus pourraient enfin tourner la page du fiasco de l'Euro, Cédric.
Alors, ça n'effacera pas complètement, évidemment, le camouflet et le traumatisme de l'Euro, hein, cette élimination prématurée en huitième de finale, mais ça redorerait le blason de l'équipe de France, ça rappellerait à la planète football que les Bleus restent l'une des meilleures équipes du monde et que Didier Deschamps, bien qu'il soit un sélectionneur contesté, eh bien, continue d'être un sélectionneur qui gagne, même si cette Ligue des Nations n'a pas le prestige de l'Euro. Si ça se passe bien, la France aura quand même battu en deux jours la Belgique et l'Espagne, et ça, ce serait bon pour regonfler le moral de tout le monde est donné de nouveau du crédit aux champions du monde français.
France-Espagne ce soir à partir de 20h45. La petite finale, elle était gagnée par l'Italie. 2-1 face à la Belgique.
Et en attendant, ce soir il est bleu. La bonne nouvelle du jour, Fanny, pour le sport français est venue du cyclisme.
L'ancienne championne est aujourd'hui consultante pour France Télévisions. Marion Rousse vient d'être nommée directrice du tout nouveau Tour de France Femmes qui verra le jour le 24 juillet prochain. Une très bonne nouvelle, hein, car Marion Rousse est une référence dans le cyclisme. Et cela ne peut qu'aider au développement du cyclisme féminin. Sa réaction au micro de nos confrères de France Télévisions.
C'est un honneur, vraiment, c'est le mot que je peux employer. Le cyclisme féminin évolue d'année en année et je le vois depuis que j'ai arrêté ma carrière. Il y a des nouvelles courses qui se créent avec Paris-Roubaix qui a été vraiment une réussite. Et puis ce cyclisme féminin qui rentre vraiment dans le cœur des gens qui regardent la télé, le cyclisme ou les gens qui sont sur le bord de la route. Et il manquait certainement une course par étape de référence et on l'a, ce joyau, entre nos mains. Et maintenant, il va falloir qu'on le fasse briller comme il se doit.
Et les tracés des deux tours seront présentés jeudi à Paris. Marion Rousse qui s'exprimait depuis la Touraine où se déroulait la dernière classique de la saison Paris-Tour avec la victoire d'Arnaud Démare, sacré roi des chemins de vigne. Premier succès français sur cette course depuis Frédéric Guédon en 2006. Pour eux, le début de saison approche, c'est dans moins de 2 semaines, mais avec les conditions sanitaires, eh bien, les skieurs français ne savent toujours pas dans quelles conditions cela va se dérouler, en particulier les Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin. Là, c'est le grand flou, Guillaume Batin.
À 117 jours de la cérémonie d'ouverture, Alexis Pinturo, vainqueur du Gros Globe de Cristal la saison dernière, est serein, mais fataliste. Cela fait un an et demi que le champion français s'adapte aux conditions. Des tests PCR avant, pendant et après les étapes de Coupe du Monde, aux bulles sanitaires et aux passages de frontières.
En trois mois, on voit bien à quel point les choses peuvent changer, du tout au tout. Il y a des choses qui ont déjà été plus ou moins annoncées, donc il semblerait que maintenant on a plus de quarantaine à faire, mais il y a énormément de restrictions sur les accréditations, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entraînements qui ne peuvent même pas être dans le site, le village olympique. Il faudra quand même trouver de la fraîcheur dans tout ça. Donc ça, c'est juste l'avoir dans un coin de notre tête et pour potentiellement trouver des solutions.
Pour les Olympiques et les Paralympiques, les cadres des équipes de France vont devoir affûter l'organisation des déplacements et des entraînements. Fabien Saguez est le directeur technique de la Fédération française de ski.
D'habitude, moi je suis prêt toujours un an et demi à l'avance. Je sais exactement où on va aller, qui dort où, dans quel lit, qui prend quel vol. Tout est incertain. On va y arriver.
La Bible des Jeux Olympiques, qu'on appelle le playbook, devrait sortir la semaine prochaine. Un document indispensable à toutes les délégations. On sait déjà que les athlètes vaccinés ne feront pas de quarantaine en arrivant, mais qu'un test anti-Covid quotidien sera exigé.
Il y a des jeux qui seront bien sûr à vivre sur France Inter.
Du ski encore avec une histoire rare maintenant, l'histoire d'une renaissance, celle d'un skieur miraculé, Kevin Roland, skieur freestyle, l'un des plus titrés au monde, est en pleine préparation pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en février prochain. Il y a 2 ans, il a été victime d'une spectaculaire chute qui l'a laissé dans le coma, immobile pendant 1 mois et demi. Il a fallu longtemps à Kevin Roland pour s'en remettre. Cette reconstruction est au cœur d'un documentaire qui a été diffusé pour la première fois il y a une semaine à Annecy. Kevin Roland, qui va reprendre ses entraînements pour préparer la saison à venir, s'est confié à Jérôme Val, chez lui à côté d'Annecy. C'est le long format de ce soir.
Pour le titre de son documentaire, Kevin Roland a choisi un vocable désormais entré dans le langage courant avec la crise du Covid, résilience, ou comment il est redevenu un champion après avoir frôlé la mort.
Les médecins m'ont dit qu'il va falloir penser à faire quelque chose d'autre de votre vie. Voilà. C'était ça les mots exacts. Ça m'a fait bizarre parce que mon objectif il était tellement intense pour revenir sur les skis que me dire qu'il faut penser à faire quelque chose d'autre, ça a été très compliqué.
Ce 30 avril 2019, dans sa station de la Plagne en Savoie, Kevin Roland tente le record du monde de hauteur pour un saut. Il est victime d'une lourde chute, multiples fractures, coma. Son premier enfant naît alors qu'il est encore dans les vapes, comme il le raconte.
Le fait d'être devenu papa en même temps que l'accident m'a sauvé humainement parlant. La période où j'ai eu mon accident, c'est la période où j'étais le plus heureux de ma vie, très bizarrement. Mais parce que j'étais devenu papa et que j'avais de l'amour à plus savoir qu'en faire, quoi.
Dans ce documentaire, on découvre les images de sa chute qui aurait pu lui être fatale.
Oh putain ! Non ! Ciao, mon petit, hein ! Allez, courage, tu fais pas, hein !
Je m'en suis mis des tartes tout au long de ma carrière et j'ai pu. Je suis pas choqué de me voir tomber. Bon, il faut dire que celle-là a été particulièrement impressionnante. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur ce documentaire, donc les images, je les ai vues des centaines de fois. Ça me fait plus grand-chose.
Moins de 5 mois après, Kevin Roland fait son retour sur les skis comme un retour à la vie après avoir été alité pendant 45 jours.
Je me rendais compte de la chance que j'avais d'être là, de prendre juste de l'air sur mon visage et de skier. Regardez les oiseaux, ça me paraît un peu cruche, mais c'était vraiment le cas.
Réapprendre à marcher, puis remonter sur les skis, enfin revenir à la compétition, c'était en mars dernier, au championnat du monde, où il parvient à se hisser en finale. À 32 ans, Kevin Roland le confesse, l'accident a un peu changé sa façon d'appréhender son sport, un sport à risque.
J'ai des enfants, je sais qu'en un claquement de doigts, tout peut un peu s'arrêter. Je laisse rien au hasard. Je prends toujours les risques, mais je les prends en toute connaissance de cause. Et je me dis pas, allez, on essaye, on verra bien. Je suis barjot, mais en toute connaissance de cause, voilà.
Kevin Roland, c'est un titre de champion du monde de halfpipe, une médaille de bronze au JO de Sochi, 5 fois vainqueur des X Games. Son ambition maintenant est de remonter sur un podium olympique dans 4 mois à Pékin.
Et c'est assez fou. Encore une fois, c'est une victoire avant d'avoir commencé. C'est quand même différent par rapport aux autres années, c'est que je sais d'où je viens et je viens de très loin.
Le documentaire « Résilience » de Kevin Roland devrait être diffusé d'ici la fin de l'année.
Kevin Roland, le skieur miraculé, Jérôme Val.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
Et on ouvre l'agenda des temps forts de la semaine, de l'actualité de la semaine qui vient, avec d'abord demain l'Assemblée qui s'empare du dernier budget du quinquennat, examen en première lecture de la partie recette du projet de budget 2022. Le rendez-vous la semaine prochaine sur l'agenda judiciaire, c'est mardi avec une audience rarissime et le procès d'un ministre, celui des PME, Alain Grisé, pour déclaration incomplète ou mensongère de patrimoine. Sur l'agenda politique, les militants PS votent jeudi pour désigner leur candidat à la présidentielle. Et puis vendredi, Emmanuel Macron revient à Marseille un mois et demi après l'annonce de son grand plan pour aider la ville. Vendredi également, double tour de vis pour les 5 millions d'adultes n'ayant pas encore reçu de dose de vaccin. Les tests de dépistage seront payants et le même jour, les professionnels de santé devront présenter un schéma vaccinal complet sous peine d'être suspendus. La semaine sera aussi marquée par l'hommage au professeur Samuel Paty. Des cérémonies sont prévues en fin de semaine pour commémorer le premier anniversaire de son assassinat. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty a été assassiné en quittant le collège par un islamiste pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Sonia Princé.
Dès vendredi, tous les établissements scolaires vont organiser une minute de silence en mémoire de Samuel Paty et une heure de cours sera consacrée à un temps d'hommage et d'échange avec les élèves. Le ministère de l'Éducation nationale met à disposition des professeurs des ressources pédagogiques et suggère, à partir de la classe de CM1, de consacrer cette séance à l'esprit critique ou au métier de professeur, son rôle, sa légitimité. Mais les établissements sont libres d'organiser cet hommage comme ils le souhaitent et surtout en fonction de l'âge des élèves. Samedi 16 octobre, jour anniversaire de la mort de Samuel Paty, une cérémonie est prévue dans son collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Ses collègues prendront la parole, des élèves présenteront des travaux qu'ils ont réalisés. Dans la ville, une marche est prévue dans l'après-midi et à Paris, un square sera baptisé du nom de Samuel Paty, situé en face de la Sorbonne, symbole des Lumières contre l'obscurantisme. Enfin, Emmanuel Macron recevra samedi la famille du professeur assassiné.
Et on terminera la semaine avec dimanche, le marathon de Paris, 44e édition, très attendue après son annulation l'an dernier à cause du Covid, et près de 60 000 coureurs de 145 nationalités seront sur la ligne de départ et parmi eux, 70 coureurs s'élanceront pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque avec pour objectif de financer l'opération de 8 enfants cardiaques qui n'ont pas accès aux soins. Mathis Poirier, 19 ans, étudiant en droit, va donc courir pour sauver des enfants. Il s'est entraîné pendant un an à cause du confinement. Il a couru un marathon dans son jardin. Défi relevé pour Mathis, déterminé à récolter 12 000 euros nécessaires pour financer l'opération d'un enfant.
Ce qui m'a réellement mené à m'inscrire sur cette course, c'est notamment une idée de transcendance par rapport à une course mythique qui a une histoire vieille de 2500 ans. C'est vraiment l'idée d'héritage historique et de participer à cet héritage et de courir une course mythique sur une distance hors norme au niveau physique.
Avec une motivation supplémentaire aujourd'hui à destination des enfants.
Tout à fait, j'avais vraiment envie de donner, en plus de ce sens-là, un sens supplémentaire à la course en m'engageant avec Mécénat Chirurgie Cardiaque, donc l'association qui finance des chirurgies cardiaques à des enfants de pays en développement, pays dans lesquels il n'y a pas une structure médicale suffisamment développée pour qu'ils puissent avoir accès à ces soins. Et c'est également une association qui forme les médecins sur place.
Mathis, vous savez pour quel petit garçon ou quelle petite fille vous allez courir ?
Alors non, en fait, c'est tout le charme de la contribution collective dans laquelle je participe. C'est-à-dire qu'on a tous une page de collecte avec laquelle nous récoltons des dons qui sont plus ou moins importants. Et en fait, voilà, tout ça va dans un pot commun qui est ensuite redistribué selon les besoins des enfants et selon le nombre d'enfants pour lesquels l'association peut financer des soins.
Alors, avant ce marathon durant lequel vous allez courir pour sauver des enfants, l'aventure a commencé bien en amont sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est ça ?
Et il a fallu mettre en place, une campagne de collecte. Donc ça a notamment pris la forme d'appels aux dons sur mes réseaux sociaux, pour ne parler que de mon cas. J'ai également sollicité des proches, des amis, également des entreprises, dont un supermarché, donc le supermarché G20 de Thouary, qui a chaleureusement répondu à ma requête et qui a généreusement fait un don de 1200 euros pour la collecte. Donc voilà, c'est quelque chose qui a assez bien fonctionné.
Dernière question, 42 km 195, vous vous êtes entraîné comment ?
Ça fait environ un an et demi, deux ans que je m'entraîne. c'est environ 4 entraînements par semaine. Ça représente un volume d'environ 4-5 heures de course à pied par semaine. C'est très éreintant. On arrive donc vers le marathon. On baisse un petit peu le volume d'entraînement pour arriver au maximum de sa forme. Et tout ira bien normalement.
Voilà le marathon de Paris avec Mathis qui va courir pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Au générique de cette édition, Grégory Wallon et Guillaume Roux en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal. Avec Anne Patinec à la rédaction en chef, assistée de Swad Bellani et Rachid Zourdani. Merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. La météo dans un instant.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Jean-Michel Golinski.
Les pressions baissent un peu dans la partie nord du pays, conséquence une perturbation de très faible activité en profite pour pénétrer par la Manche. Elle pourra donner quelques gouttes ce soir et cette nuit sur les départements côtiers, puis demain près de la Belgique, du Luxembourg et de l'Allemagne, sous un ciel chargé en matinée sur toute la moitié nord du pays, mais s'éclaircissant très rapidement en journée par les côtes. Au sud de la Loire, comme ces derniers jours, il faudra composer avec le brouillard au réveil, une grisaille évoluant beaucoup plus vite que ces derniers jours vers un horizon souvent tout bleu, et le vent de secteur nord sera modéré en Méditerranée. En fin de nuit, les gelées blanches en campagne seront fréquentes sur les régions du quart nord-est avec souvent 1 à 3 degrés sous abri. En journée, les valeurs maximales, stables par rapport à aujourd'hui, vont varier de 15 à 17 degrés dans l'extrême nord, jusqu'à 23 en moyenne autour de la Méditerranée.
Jean-Michel Golinski de Météo France.